France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est laissant une soupe chaude sur la table de la cuisine ou un gazpacho sur le comptoir d'un bar branché qu'ils ont ressenti l'appel de l'actualité dans la nuit noire. Le signal des informés a rayonné et ils ont répondu présent. Bon, rapidement, parce qu'après, le signal a été interrompu à cause de la grève dans le secteur de l'énergie. Mais bon, bref, on s'en accommode. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Audrey Goutard,
bonsoir.
De la rédaction de France Télévisions. Également le politologue Thomas Guénolé, bonsoir.
Bonsoir.
Éric Métou, bonsoir. De l'Express. Et Éric Delannoy, président fondateur du cabinet Dancing Conseil. Et ce soir, on parlera de Constitution. Ça y est, la réforme est lancée. Tout le monde est très excité. Hein. Asile, immigration et discorde à l'Assemblée nationale. Étudiant le diplôme de la barricade. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, les jours de grève, vous savez, il y a toujours quelqu'un de très énervant à votre travail. Quand vous lui demandez « ça va, ça n'a pas été trop galère pour prendre le train ?» Il vous répond systématiquement « ben non, pas du tout. Non, j'ai même été tout seul dans le wagon. » Voilà. Vous savez, c'est le même genre de personne qui ne rencontre jamais d'embouteillage le 15 août ou qui, à l'hôpital, ne tombe jamais sur une blouse avec fesses apparentes. C'est assez énervant. En tout cas, pour la plupart des utilisateurs de la SNCF, c'était encore difficile. En fait, aujourd'hui, demain, ça ira mieux, mais avec quelques ralentissements, puisque si le trafic TGV est annoncé quasi normal, 3 trains sur 4 sont prévus pour les trains dits du quotidien, c'est-à-dire les transiliens en région parisienne et TER en région, et 3 sur 5 pour les intercités du côté des grévistes. Ils étaient moins nombreux, 29,7 contre 33,9 la veille, un peu moins de cheminots, mais davantage de contrôleurs et d'aiguilleurs ayant cessé le travail. Hein. Première journée de mobilisation réussie, mais quid des autres et des gênes occasionnés donc pour les voyageurs. On sait que la bataille sera décisive pour les cheminots, comme pour le gouvernement, une posture bien comprise par certains, comme le porte-parole du NPA, Olivier Besancenot.
Dans les discussions, il y a aussi l'idée de dire aux usagers, voilà, c'est pas d'abord contre vous, c'est précisément pour vous qu'on se bat. Et en effet, moi, je peux être interpellé dans la rue en disant, ça va être la galère. C'est vrai que c'est la galère. Peut-être, mais quelques jours de galère, des fois, ça vaut mieux qu'un grand retour en arrière de 100 ans sur un service public auquel on tient, quand même, malgré tout.
Voilà, Olivier Besancenot, ce matin sur France Inter. Éric Delannoy, est-ce qu'il y a un vainqueur, finalement, ce soir, entre le gouvernement, les syndicats, sur la bataille de l'opinion, à votre avis?
Pas encore, mais on va voir comment ça va se passer dans les jours à venir. Enfin, moi, j'aime bien entendre Besancenot quand même sortir ses litanies, parce que franchement, je vois pas le rapport entre la réforme du statut des cheminots, en l'occurrence, et le service public. Enfin, le service public, c'est l'efficacité du service public, c'est la qualité du service public, c'est la capacité à faire en sorte que les trains arrivent à l'heure. Ce n'est pas le départ en retraite à 52 ans, ce n'est pas une retraite 2 fois supérieure à celle des Français, ce n'est pas le fait d'avoir 28 jours de RTT, ce n'est pas... Enfin, bref, donc aujourd'hui, il s'agit de regarder comment on fait une SNCF, on va dire, plus efficace. Et non pas de s'attaquer à des gens qui travaillent comme tous les autres, mais justement qui devraient peut-être avoir un statut comme tous les autres.
Alors, Thomas Guénolé, c'est la question finalement aussi que tout le monde se pose là-dedans. On est dans un combat social. Est-ce que c'est un combat finalement pour la SNCF ou également du service public ?
Il y a une question qu'il faut poser, qui est le traitement médiatique des grèves avant tout. C'est-à-dire que moi, le traitement médiatique de la grève, ça me fait penser à des affiches de mai 68, ouais. Et donc je vous les ai apportées.
Ça tombe bien, il y a une exposition en ce moment à Radio France.
Que je vous recommande, bien sûr. Donc la première, c'est un CRS au micro de l'ORTF. La police vous parle tous les soirs à 20h. Donc ça, c'est dédié à BFM TV.
Un peu plus haut, parce qu'on la voit pas.
Qui fait des zooms sur les moindres incidents et les moindres problèmes dans les cortèges, au lieu de couvrir ce qui se passe effectivement dans les manifestations. Après, il y a une télévision.
Quelle manifestation ?
Après, il y a une télévision.
Les 2000 personnes qui ont défilé à Paris hier.
Allez-y, Thomas. Laisse-moi
finir. Après, il y a une télévision avec écrit sur l'écran la voix de son maître. Ça, c'est sur les éditorialistes qui, à la quasi-unanimité, sont contre les grèves, alors que je rappelle qu'à l'heure où on parle, un Français sur deux est pour les grèves et donc n'est quasiment pas représenté dans les plateaux d'éditorialistes sur le service audiovisuel privé et public. Et puis, pour terminer sur les affiches, je ne vais pas toutes vous les faire,
il y a une expo. Il y a une expo au Beaux-Arts en ce moment.
La dernière de mai 68, presse ne pas avaler. Donc ça, la fiole que vous voyez ici, avec un certain nombre de fake news qu'on nous répète. Par exemple, on vient d'entendre une à l'instant sur les cheminots qui partent à 52 ans. C'est faux, leur âge réel de départ à la retraite est en réalité le même que celui des Français, c'est-à-dire 58 ans. Ah, et autre exemple, quand on vous dit qu'en Allemagne, on a fait la même réforme et ça s'est super bien passé, c'est faux. En Allemagne, prendre le train, c'est plus cher qu'en France.
Juste dire,
et je termine, la couverture télé des grèves, je ne comprends pas un truc. On a un Français sur deux qui est pour les grèves, et pourtant, les gens lambda, passez-moi l'expression, qu'on voit dans les reportages télé, c'est à une écrasante majorité, voire la quasi-totalité, des gens qui sont contre les grèves. Et donc, je voudrais dire aux grands médias, s'il y a des journalistes qui nous regardent en ce moment, s'il vous plaît, arrêtez de faire campagne contre les grèves, informez-nous.
Thomas Guignolet, alors, il y a une chose juste.
C'est la faute à les médias.
Votre point de vue, nous, à France Info,
on est immédiatement dans le tir de barrage corporatiste.
Je vais juste expliquer une chose. Les personnes qu'on interviewe aussi, c'est pas forcément Thomas Guignolet, des gens à charge, c'est tout simplement qui ont des difficultés, peut-être pour prendre leur train. Donc c'est pas à charge contre les cheminots.
C'est extraordinaire parce que
il y a des difficultés, c'est vrai, faut l'admettre.
Mais je ne conteste pas l'existence de difficultés, mais expliquez-moi pourquoi les gens lambda qui sont mécontents des grèves sont omniprésents dans les reportages et pendant ce temps-là, les gens lambda qui sont pour les grèves sont quasiment absents des reportages en question.
Je crois que c'est pour illustrer aussi les difficultés aussi à prendre,
ce qui est vrai. Sans même parler de la façon d'interviewer les responsables politiques sur la réforme de la SNCF, parce que je suis content qu'on ait France 2 sur le plateau, parce qu'honnêtement, l'interview d'Anne-Sophie Lapix au Premier ministre sur la réforme de la SNCF, c'était incroyable. Il manquait plus qu'y servir le café, franchement.
Alors moi, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là. Pour l'instant, d'abord, vous dites un Français sur deux est d'accord pour les grèves. Moi, j'ai lu d'autres sondages qui disaient que 34% des Français...
Non, c'est 47%.
Pardon, vous me laissez finir. 34% des Français soutenaient la grève de la SNCF. Ensuite, la deuxième chose, c'est que sur les reportages qui ont été faits, nous étions effectivement dans les gares avec des gens qui étaient effondrés de se retrouver dans cette situation-là. Et alors moi, on avait des reporters qui étaient sur le terrain, ils ont tous souligné, et on l'a vu dans nos reportages, que les gens étaient effondrés de la situation dans laquelle ils se trouvaient, mais la majorité d'entre eux, effectivement, comprenaient les difficultés des cheminots et plutôt allaient dans le sens en disant c'est important qu'ils fassent grève. Et c'est ce que nous avons montré. Alors, moi, je vous mets. Non, mais vous pouvez faire des mous, etc. C'est très bien. Mais au contraire, dans nos reportages.
Je fais bien
c'est
la ce moue, qui est.
Oui, vous faites bien la moue.
Oui, la moue.
Dans nos reportages, nous avons montré leur énervement et c'est légitime lorsqu'on cherche d'aller au boulot et qu'on se retrouve dans un RER. Déjà, le RER ou le train, aujourd'hui, c'est et pas simple, ça coûte cher. Les voyages du quotidien sont difficiles. En plus, on se retrouve dans une situation comme ça, c'est compliqué. Je finis juste, pardon. Oui. Et effectivement, malgré tout, on a senti, en tout cas au premier jour de grève, je ne suis pas sûre que ce soit la même chose au bout d'une semaine, mais qu'il y avait une compréhension. Un sentiment.
Je ne voudrais surtout pas le dire.
Alors, on va y revenir dans un instant, mais je voudrais aussi qu'on parle. On ne parle que du média, parce qu'il y a un moment aussi, beaucoup des gens de médias ne prennent pas de train, il faut le dire aussi ce qu'il y a. Et on va y revenir dans un instant sur cette réforme de la SNCF, l'info à 20h11, Édouard Marguier.
Les deux premiers jours de la grève perlée à la SNCF sont presque terminés. La direction annonce 30% de grévistes aujourd'hui. Reprise du trafic demain, mais conséquence du mouvement, des retards sont à prévoir sur les petites lignes. Sous les ordres de Matignon, le Premier ministre, pour annoncer la réforme des institutions, Édouard Philippe, propose de diminuer d'un tiers le nombre de parlementaires et d'élire 15% des députés à la proportionnelle dès les prochaines législatives en 2022. Cette révision constitutionnelle était l'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Un des plus vieux djihadistes de Belgique arrêté dans le nord de la France, l'imam Bassam Ayachi, franco-syrien, fait l'objet d'une enquête terroriste. 72 ans, il est mis en examen depuis mardi dernier par un juge français. Il a été placé en détention provisoire. Il est en fait soupçonné d'être en lien avec un djihadiste français d'une trentaine d'années. Bassam Ayachi est connu pour avoir propagé un islam radical au centre islamique belge à Molenbeek. Ils se sont fait agresser alors que leur métier est de soigner. 1000 médecins ont subi des agressions l'an dernier selon le Conseil national de l'ordre. C'est du jamais vu. Les femmes sont les plus ciblées dans le Nord et dans les Bouches-du-Rhône particulièrement. Moment crucial pour l'ancien président brésilien Lula. La Cour suprême du pays va dire si oui ou non il doit être incarcéré. Il a été condamné à 12 ans de prison par la justice pour corruption. Si la Cour le laisse en liberté, il pourra se présenter à la présidentielle qui a lieu dans 6 mois.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info demain. Donc, il y aura normalement un trafic quasi normal pour la SNCF. La grève dite perlée devrait reprendre dimanche et lundi prochain. Une chose, Éric Métou. Alors, certains, on a vu toute une discussion en ce moment autour du service minimum. Vous savez, on dit le vrai service minimum. Par exemple, Valérie Pécresse dit qu'il faut un vrai service minimum. En se renseignant aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est instauré donc depuis 2007, le service minimum. Et en fait, il s'agit davantage d'un service d'information. C'est-à-dire, c'est obligé de se déclarer 48 heures avant, et pas de circulation, excepté sur l'Île-de-France où un tiers des liaisons quotidiennes doivent être assurées. Et certains, à droite, disent eh bien, il faut, à ce moment-là, un vrai service minimum, réquisitionner des cheminots. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible? Ça existe dans la loi, hein, bien sûr, en cas de sécurité publique, tranquillité, etc. Mais pour les grèves...
Non, enfin, le droit de grève est inscrit dans la démocratie, et c'est très bien qu'on puisse l'exercer. Moi, ce qui me gêne, c'est pas le droit de grève. Ce qui me gêne, c'est qu'on fasse passer la défense du service public, donc du service rendu aux usagers, pour en fait quelque chose qui est une défense de droits acquis, qui sont tout à fait honorables. Simplement, je veux dire, effectivement, le statut des cheminots, c'est pas pour défendre les usagers, c'est pour défendre le statut des cheminots. C'est très bien de le défendre, mais qu'on arrête de dire n'importe quoi là-dessus. Par ailleurs, on parle de fausses informations, de privatisation. Il y a pas privatisation. On peut ne pas être d'accord avec le nouveau statut de la SNCF, c'est pas de la privatisation. Effectivement, c'est pas des travailleurs qui sont particulièrement privilégiés. Ils ont un certain nombre de privilèges qu'il est tout aussi honorable de remettre en cause. Après, on est dans un jeu social normal. Et derrière ça, faire passer les médias pour responsable de la situation aujourd'hui.
Je veux dire, pourquoi les
cheminots font grève? C'est quoi le but de la grève? C'est d'emmerder les usagers qui vont emmerder la direction de la SNCF, qui va emmerder le gouvernement. Très bien, le jeu est comme ça. Mais qu'on arrête après de nous reprocher, de demander aux gens pourquoi ils sont emmerdés et s'ils sont d'accord avec les gens qui les emmerdent. Enfin, je veux dire, c'est quand même l'objectif de la grève, c'est celui-là, faut pas l'oublier.
Audrey Goutard.
Je voudrais juste souligner quelque chose, c'est que nous avons quand même, hier, nous médias, joué au chat et à la souris avec la direction de la SNCF qui nous empêchait de filmer sur les.
Et donc, vous avez été interdit de gare, hein, c'est ça.
On a été interdit de gare. Tous nos tournages ont été boycottés, moi j'appelle ça comme ça. Effectivement, nous avons été sortis des gares, entourés par les fameux gilets rouges. qui ont montré un zèle certain, et nous sommes retournés dans les gares avec les iPhones, enfin avec des iPhones, effectivement, pour pouvoir faire les images sans être contraints. Voilà.
Donc, je voulais préciser. Bien sûr, évidemment.
Non, mais enfin, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, il faut savoir pourquoi il y a une grève, et est-ce que cette grève est justifiée? En fait, quand on parle d'améliorer le service public, on parle d'ouverture à la concurrence du transport qui a été décidé à Bruxelles par d'autres gouvernements que le gouvernement actuel, faut quand même le savoir.
Donc c'est sous François Hollande, en effet.
Sous François Hollande. On parle donc de mettre en place une entreprise qui soit une entreprise performante et qui se dote d'outils performants. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Si on regarde le système d'information, pour ne prendre qu'un seul exemple qui a déclenché l'ire de nombreux usagers, de la gare Montparnasse, quand on a une entreprise publique comme celle-là, on est inscrit dans des tas de procédures absolument incroyablement pénibles et rigides pour respecter un certain nombre de règles qui sont totalement ubuesques et désuètes, qui font qu'on choisit le prestataire le moins qualifié, le moins cher, qui aboutit à des catastrophes industrielles. Et il y en a plein d'exemples.
Éric Delannoy, par exemple, hier nous avions le porte-parole de Sudrail, qui fait partie donc de cette confédération, de ce front syndical. Lui, il expliquait, il dit, nous on s'oppose par exemple à l'ouverture à la concurrence, même si c'est une obligation en effet de l'Europe, parce que ça veut dire que des entrepreneurs privés vont bénéficier du bien public sans jamais rien avoir à porter. Est-ce que ça se défend? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ça?
Il y a une chose qui se défend, bien évidemment, et sur lequel il faudra être très vigilant, c'est les lignes non rentables. Il est clair que l'ouverture à la concurrence suppose de la rentabilité, notamment pour les opérateurs qui viendraient. Mais ça suppose qu'on respecte aussi le devoir de service public de la SNCF. Et c'est à ce titre-là que je respecte éminemment la décision d'Édouard Philippe d'avoir donné aux régions la décision de fermeture ou de non-fermeture des lignes locales. Si ça avait été l'inverse, on aurait crié au centralisme jacobin. Là, on est sur le lien social et la capacité des régions à pouvoir évaluer le fait qu'on va pouvoir préserver le lien social en préservant des lignes dont on sait qu'elles sont structurellement déficitaires.
Ça veut dire quand même
qu'il faut qu'on puisse trouver cet équilibre délicat entre une ouverture à la concurrence et le respect d'un devoir public.
Une chose, toi, Guillaume, je voudrais juste qu'on entende justement la ministre des Transports qui a répondu à ces questions, parce que ça évolue un petit peu au niveau communication au sein du gouvernement et de La République En Marche. Justement, elle répondait à une question sur ces grèves, ces blocages. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne.
Moi, je pense d'abord aux usagers pénalisés hier
malgré les offres de substitution qui ont été mises en place. Alors que nous sommes à mi-chemin de la concertation, que le débat parlementaire est engagé, que j'ai présenté des propositions sur l'ouverture à la concurrence issue de la discussion, qui peut comprendre que certains syndicats persiste à vouloir s'engager dans un conflit long et pénalisant.
Voilà, alors là, on voit en effet ce combat entre syndicats et gouvernement. Mais Thomas Guénolé, qu'est-ce que vous en pensez aussi de ce, finalement, de ce que dit le gouvernement ? C'est-à-dire, sans réforme, demain, il n'y a plus de SNCF.
C'est faux. C'est simplement... juste parce que j'ai entendu beaucoup de choses, ouais, je vais essayer d'aller vite. La concurrence est impossible dans le ferroviaire pour une raison très simple. Vous ne pouvez pas faire passer deux trains sur les mêmes rails à la même heure. C'est matériellement impossible. Mmh. Les gens qui nous écoutent peuvent s'en rendre compte très simplement, c'est purement logique. Donc c'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est pas une ouverture à la concurrence, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Sur une liaison, mettons le Paris-Lyon à 9h, vous n'aurez qu'un seul train. Mmh. Bon. Et donc il va y avoir un partage des créneaux entre des firmes.
Ouais.
Et donc un partage de gâteaux comme les autoroutes.
Pour le fret, c'est déjà le cas.
Résultat, bah oui, mais c'est un problème.
Ah d'accord.
Et en fait, cette façon de fonctionner avec chacun des créneaux sur le fait d'avoir des rails en commun, bon, c'est revenir en réalité à la situation d'avant les années 30, où le fait d'avoir différentes firmes qui se partageaient, finalement qui se partageaient un gâteau parce que chacun sur son tronçon est en monopole,
ouais,
donc est en situation de rente. Donc si le prix s'étend sur le train de 9h et que vous devez prendre votre train à 9h, vous n'aurez pas le choix et vous allez vous faire avoir et vous allez devoir raquer par cette arnaque, comme on a dû tous raquer pour les autoroutes, c'est le même mécanisme. Et donc, on revient finalement à la situation des années 30, où il y a, avant les années 30, où vous aviez ça, et vous saviez ce qu'avait fait le gouvernement à l'époque pour résoudre ce problème. Ils ont créé la SNCF.
Ils ont créé la SNCF.
Et je termine juste sur les régions. Excusez-moi.
D'ailleurs, quand ils ont créé la
sur
SNCF, les cheminots se sont mis en grève.
C'est faux. C'est pas pour ça qu'ils sont. Non, c'est pas vrai. C'est pas pour ça qu'ils sont mis en grève.
Non, c'est pas pour ça. C'est à cause des médias.
Ce n'est pas vrai.
C'est à cause des médias.
Écoutez, deux secondes.
Ils ont maltraité
les cheminots. Les cheminots, ils se sont mis en grève pour votre gouvernement. Ils se sont mis en grève en 1919 et 1920, et c'était entre autres pour la nationalisation du rail. Donc, faut faire attention à ce qu'on dit. Et sur les régions qui vont décider, les régions sont en contrainte budgétaire. Donc, Édouard Philippe leur refile la patate chaude de fermer les petites lignes, parce qu'en réalité les régions n'auront pas les moyens. Et donc quand vous dites Édouard Philippe nous fait de la démocratie de proximité, quand vous leur coupez le zizi au niveau du budget dans le même temps, c'est pas vrai, et je vous rappelle
que par ailleurs les régions ont la capacité, avec la directive européenne, de pouvoir faire des appels d'offres publics pour justement décider de qui passera sur les rails à quel créneau.
Ce qui pose exactement le même problème. Allez, ce n'est pas de l'ouverture à la concurrence, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est du partage de monopole entre des grandes firmes qui chacune seront en monopole. Donc ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur, n'est pas vrai.
Alors, dans un instant, on va parler d'un autre mouvement social, voilà, celui des étudiants. L'info à 20h20, Édouard Marguier.
Le projet de révision constitutionnelle est maintenant lancé. Le Premier ministre a annoncé sa réforme des institutions. Édouard Philippe propose de diminuer de 30% le nombre de parlementaires et d'élire 15% des députés selon un scrutin proportionnel dès les prochaines législatives. Ce sera en 2022. Autre proposition avancée par le chef du gouvernement, une référence explicite à la Corse dans la Constitution. Avec la grève à la SNCF, le Premier ministre Édouard Philippe, qui préfère rester en France, il annonce reporter son déplacement au Mali, qui devait avoir lieu ce week-end. Le deuxième jour de la grève perlée se termine. Un peu moins de 30% des cheminots étaient grévistes. Aujourd'hui, reprise du travail demain, avec un trafic qui reprendra progressivement, prévient la direction. Chez Air France, 4 nouvelles journées de grève sont annoncées. L'intersyndicale appelle à cesser le travail pour tous les métiers de la compagnie les 17, 18, 23 et 24 avril. Ces dates s'ajoutent aux 7, 10 et 11 avril. Les syndicats dénoncent un simulacre de négociations et réclament toujours une augmentation des salaires. Le volailler Doux est placé en liquidation judiciaire, décision rendue aujourd'hui par le tribunal de commerce de Rennes. Mais le groupe du Finistère pourra poursuivre son activité dans l'attente d'un repreneur. Deux offres ont déjà été déposées, l'une par un agro-industriel ukrainien et l'autre par un consortium français. Cette dernière permettrait de conserver 920 emplois sur un peu moins de 1200. L'affaire Skripal crispe toujours. Moscou demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU après l'empoisonnement de l'ancien agent secret russe au Royaume-Uni. Londres accuse les Russes d'en être responsables. Ces derniers démentent et affirment que le Royaume-Uni est derrière tout ça.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, pagaille, ramdam, colère, hein, pas seulement sur les rails, mais également dans les amphis. Alors ce n'est pas un mouvement d'ampleur, mais il perdure. Sur 73 universités en France, une dizaine sont bloquées pour contester notamment la réforme Parcoursup à Paris. Le site de Tolbiac a voté hier la grève illimitée. Certains campus des universités de Toulouse, Bordeaux, Nice, Montpellier, Nantes ou encore Poitiers sont toujours mobilisés. Si le plan d'orientation et de réussite des étudiants mobilise, d'autres mots d'ordre se sont joints à la colère contre la réforme du bac ou la violence, hein, comme à Montpellier. On écoute tout de suite des étudiants qui discutent justement de ces mots d'ordre et vous allez voir, c'est assez contrasté, on les écoute.
C'était très important pour nous, en fait, de montrer au gouvernement notre détermination et leur dire, on ira jusqu'au bout.
Moi, je suis contre le blocus. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse avoir une cohabitation entre les étudiants qui veulent bosser et ceux qui veulent vraiment lutter.
Demain, l'université, c'est très simple. On le remarque, c'est ceux qui viendront des lycées les plus performants, donc avec le plus de moyens, toujours les mêmes lycées. Ceux qui font des bacs généraux, qui auront choisir les bonnes licences et qui sont accompagnés toujours plus.
Voilà, des étudiants donc à Paris et Montpellier. Audrey Goutard, c'est pas un mouvement d'ampleur, mais tout de même, on voit que le gouvernement regarde ça de très, très, très près.
Ils ont raison.
Pourquoi ?
Le gouvernement a raison de regarder ça de près, parce qu'effectivement, on voit bien que les facs, ça peut s'enflammer assez rapidement. Ça part souvent, effectivement, d'un petit foyer, d'un incident, comme à Montpellier, et puis ça s'enflamme. Et puis en plus, le gouvernement sait, évidemment, et on a entendu plusieurs membres du gouvernement l'exprimer, c'est qu'il y a l'inquiétude des étudiants est légitime. C'est vrai qu'ils sont dans une situation absolument terrible. Ils sont passés d'un système compliqué qui était déjà injuste. Aujourd'hui, on crée un nouveau
Parcoursup,
un nouveau système. Et ce système est pour l'instant en expérimentation. Et on a bien vu qu'avec d'autres systèmes éducatifs, effectivement, les expérimentations ne fonctionnaient pas. Donc là, de nouveau, c'est une expérience à tenter. Ça fonctionnera peut-être, mais effectivement...
Non, mais c'est formidable. C'est comme la grève des cheminots. C'est-à-dire que c'est des gens qui font grève. Enfin, les étudiants font grève pour des choses qui ne les concernent pas.
Le parcours sup,
ça concerne les lycéens. Donc ça les concerne pas eux. Les cheminots, ça va concerner les prochains, le statut des cheminots.
Non, pas les étudiants.
C'est une grève strictement politique.
Oui, mais évidemment, c'est pour ça d'ailleurs que ça ne concerne que DIFAC. C'est pour ça que pour l'instant, ça ne concerne que DIFAC.
Par ailleurs, c'est une grève. La sélection dans les universités, moi je connais bien les facs. Et ça existait déjà de mon temps.
Ça s'appelle du mentor.
C'est-à-dire qu'on envoie effectivement des gens au casse-pipe, des étudiants au capi, des lycéens au casse-pipe.
On est bien d'accord.
Ben voilà.
Il faut changer ça.
La situation à l'université, elle est désastreuse aujourd'hui.
On est bien d'accord. Et c'est pour ça que je pense que ça peut. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, ça peut se disséminer.
Alors,
parce qu'effectivement, la situation dans les facs est catastrophique.
Éric Delannoy, l'UNEF, qui est un des syndicats. Bah oui, l'UNEF, qui est un des syndicats, demande, eux, par exemple, s'ils demandent, c'est le retrait de cette loi et plus de moyens. En gros, leur slogan, c'est pas de sélection, mais plus de facs. Est-ce que c'est une des solutions, monsieur ?
Ça n'a rien à voir. Enfin, les deux arguments n'ont rien à voir les uns avec les autres. Qu'il y ait une demande de plus de moyens, oui, bien évidemment. D'ailleurs, il y aura plus de moyens puisqu'il va y avoir une création de 22 000 places supplémentaires sur les filières en tension. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas des moyens supplémentaires. Mais ça n'est jamais assez. Justement, l'UNEF qui est toujours,
qui représente rien, l'UNEF en plus.
Enfin, il représente des bataillons d'apparatchiks de l'ancien Parti socialiste.
Oui, mais c'est combien d'étudiants.
Ça, quand même, faut le savoir. C'est quand même des gens qui sont dans la rue dès qu'il faut être dans la rue pour protester. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement claire. Maintenant, sur le fond de la réforme, est-ce qu'on préfère une sélection par tirage au sort avec des gamins qui se retrouvaient avec des mentions très bien et qui n'avaient pas de place dans les facs, ou est-ce qu'on préfère une cohérence de parcours dans lesquels on va accompagner les jeunes par les professeurs pour qu'ils puissent trouver des places dans les facs qui soient cohérents par rapport aux choix qu'ils auront fait. Je vous rappelle quand même qu'un des premiers objectifs de cette réforme, c'est de lutter contre l'échec à la première année d'université qui est de plus de 50%.
50% en effet.
Parce qu'il n'y a pas de cohérence entre les choix et la réalisation de ce que veulent faire les gamins après le bac.
Alors Thomas Guénoé, quand vous entendez justement ce...
Oui, alors on a quand même nous une classe dirigeante qui est vraiment extraordinairement compétente et prévoyante, puisque on a eu un baby boom en France autour de l'an 2000. Et donc du fait de ça, après on a eu pendant les années 2000, on a eu un problème. Vous vous souvenez de ces actualités à l'époque? On avait des gros problèmes de manque de places en crèche.
Oui, bah oui.
Bon. Et puis après, on a eu un problème avec les classes de l'école primaire qui étaient sous tension. Vous me voyez venir. Et puis au collège, on manque de profs au collège. Et puis au lycée, oh là là, on manque de moyens dans les lycées. Et puis là, badaboum, qu'est-ce qu'on a? Bah ça y est, on a des facs qui sont surchargés. On est en quelle année?
Ouais, 2018.
On est en 2018. Ouais. Bah oui, ils viennent d'arriver.
Ouais. Donc il y a un problème d'anticipation pour vous, en fait.
Il y a un problème numéro un. Notre classe dirigeante a été collectivement, toutes étiquettes gouvernantes confondues, suffisamment stupide pour ne pas voir venir les conséquences du baby-boom de 2000 en 2018 à la fac. Et deuxième problème, ils ont fait une coupe austéritaire, c'était Valérie Pécresse à l'époque pour ne pas la nommer, ils ont fait une coupe budgétaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné les moyens nécessaires pour suivre la progression démographique. Résultat des courses, vous vous retrouvez avec pas assez de moyens et maintenant on met en place une sélection par l'argent. Je dis bien une sélection par l'argent.
Mais la sélection par l'argent, c'est la sélection aujourd'hui.
Quand vous mettez en place la sélection par dossier, ça fait la même chose que les classes prépa. Dans les classes prépa, sélection par dossier, les enfants des cadres, c'est la moitié des effectifs.
Alors, donc, vous
17%.
En fait.
Non, on augmente les moyens.
Dans un instant, on va parler réforme constitutionnelle et aussi asile-immigration. On revient dans quelques minutes sur France Info.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on trouve des tutos pour tout. Des tutos pour faire les devoirs aux enfants sous hypnose, pour dompter un poisson rouge, pour tricoter un bonnet de bain. Mais alors si je pouvais trouver LE tuto pour profiter de plein de gigas à moindre prix, là, ça serait vraiment utile.
Ne cherchez plus. Chez SFR jusqu'au 9 avril, le forfait Power 50 Go est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 24 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Jean-Pierre Hameau.
Retour de conditions anticycloniques demain par l'ouest du pays. Les hautes pressions vont pousser les nuages vers un grand quart nord-est de la France. Les averses seront encore d'actualité dans ces régions en devenant éparses l'après-midi. Et sur le reste du pays, vous allez apprécier un temps plus calme avec des éclaircies plus larges l'après-midi. Le soleil sera même radieux près de la Méditerranée en gagnant les Pyrénées et progressivement la région Aquitaine. Côté température, les minimales au lever du jour seront comprises entre 4 et 9 degrés. Comptez entre 10 et 12 degrés près des côtes du sud-ouest et méditerranéennes. Les maximales, quant à elles, seront en légère baisse dans la moitié nord et comprises entre 10 et 14 degrés. Elles seront plus douces dans la moitié sud pour varier entre 15 et 20 degrés. La maximale sera de 20 degrés à Nîmes, Montpellier et Avignon.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335 euros en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
Deux points. Ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Jules Dequise, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu. Entre nouveautés et concessions faites aux partis politiques, le gouvernement dévoile sa réforme des institutions. Elle instaurera une dose de proportionnelle pour les élections législatives, 15%. Le nombre des députés et sénateurs sera réduit d'un tiers environ. Le cumul des mandats est lui soumis à certaines conditions. Pas plus de 3 mandats identiques, complets et consécutifs. Les maires des petites communes, moins de 9000 habitants, ne sont pas concernés. La Corse sera bien citée spécifiquement dans la Constitution et le gouvernement se donne un peu plus de temps que prévu pour mener à bien la réforme. Il le fera l'an prochain et non cette année. Presque la moitié des universités françaises sont mobilisées d'une manière ou d'une autre contre Parcoursup. Elles sont une trentaine à protester contre une forme de sélection à l'entrée. 10 sont même bloquées, selon le syndicat national de l'enseignement supérieur. Et les professeurs se joignent par endroits à la mobilisation des étudiants en refusant de faire l'évaluation qui doit servir à la base de sélection des élèves. Lula, l'ex-président du Brésil, pourra-t-il ou non se présenter à l'élection présidentielle dans 6 mois, dont il est le grand favori? La Cour suprême du pays doit décider aujourd'hui s'il va ou non en prison. Il a été condamné en appel à 12 ans pour corruption passive. Il est libre en attendant un nouveau procès et c'est sur cette liberté que les juges statuent. Une incarcération provisoire hypothéquerait très largement l'avenir politique de Lula. On joue ce soir en Ligue 1 de football. C'est la deuxième mi-temps entre Rennes et Monaco. Même le match est bientôt fini. Jolaine Rouet, vous suivez pour France Info cette rencontre au Roazhon Park.
Et oui, on est dans le temps additionnel. Le match va pas tarder à se terminer. Un but partout pour le moment entre les deux formations, entre Rennes et Monaco. Les Rennais, pour l'instant, concèdent le match nul sur la pelouse du Roazhon Park. On est dans la dernière occasion rennaise, mais les Rennais n'arrivent pas à concrétiser face aux champions de France en titre Monaco. On rappelle les deux buts, 21e minute, ouverture du score par le Rennais Joris Niagnon. C'est égalisé à la 29e par le monégasque Ronny Lopez. Alors ce soir, ils ont été plus offensifs, pourtant les Rennais Rennais. Ils ont eu la niaque sur le terrain, ils ont tenté de donner du rythme les joueurs de Sabri Lamouchi, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs belles occasions, leurs multiples occasions. Alors ce match nul devrait permettre en tout cas à Rennes de retrouver la 5e place et à Monaco de se conforter à la 2e place du classement qui est, on le rappelle, qualificatif pour la Ligue des Champions.
Jolaine Rouet à Rennes pour France Info. On jouera aussi en Ligue des Champions ce soir, début des matchs dans un quart d'heure entre Liverpool et Manchester City et puis entre le FC Barcelone et l'AS Rome. C'est les quarts de finale. Allez, il est 20h33 sur France Info. Retour sur le plateau des Informés avec Jean-Mathieu Pernin et ses invités.
20h, 21h, les Informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les Informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT et eux au pied de l'arc-en-ciel de l'actualité. Ils ont trouvé Les Informés parce qu'en fait on écrit sous l'influence du personnage pour enfants Peppa Pig. Et ce soir autour de la table des Informés, nous trouvons donc Audrey Goutard, la rédaction de France Télévisions, également le politologue Thomas Guénolé, Éric Delannoy, président fondateur du cabinet Tensing Conseil et Éric Métou de L'Express. Ça y est. Il a cédé le gladiateur du palais du Luxembourg. Ah, c'est beau, un combattant dans la défaite quand même. Ah, Gérard Larcher. Eh oui, il a mis un genou à terre. Alors bon, il y a beaucoup d'émotions, pour vous nous dire ce soir. Il n'en voulait pas de cette réforme de la Constitution. Et puis finalement, pourquoi pas? Voilà. Cet après-midi, Édouard Philippe a présenté la compliquée réforme de la Constitution voulue par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Annonce la plus significative, 30% de parlementaires en moins, soit 404 députés et 244 sénateurs contre 577 et 348 actuellement, ainsi que l'introduction d'une dose de proportionnelle de 15% à partir des élections législatives de 2022. L'exécutif a découpé en trois sa réforme. Alors attention, c'est là que ça devient complexe. Il y aura un projet de loi ordinaire, hein. Il y aura un projet de loi organique et une révision constitutionnelle. Voilà, où il y aura dedans notamment la suppression de la Cour de justice de la Constitution, la Corse. Alors tout le monde est prêt à voter cette réforme. Un coup-ci, coup-ça, selon le sénateur des Républicains, Roger Carucci.
En l'état actuel, je ne vois pas la droite sénatoriale voter. Il faut qu'il y ait encore des débats, encore des discussions, que le gouvernement probablement lâche un peu de lest sur le pouvoir d'amendement, sur ce dispositif qui m'inquiète, ou sur un certain nombre d'éléments. La réalité, c'est pour moi l'équilibre entre les zones rurales et les zones urbaines. Mmh. Autant je souhaite que les zones rurales soient représentées, autant je ne veux pas que nos malheureux urbains, par exemple d'Île-de-France, sur le coup soient complètement dessaisis.
Voilà, le sénateur des Républicains Roger Carucci sur Public Sénat. Éric Métou, une réforme qui sera parachevée en 2019. Utile, pressé, de le faire maintenant.
Je trouve qu'il y a des bonnes choses. La proportionnelle, c'est une bonne chose. La limitation du nombre de députés, c'est une bonne chose. Après, la Corse, c'est une moins bonne chose. Mais visiblement, ça a été négocié au moment du voyage. Depuis, il a lâché que ça. Donc, après, il y a des. C'est assez cosmétique en fait. C'est-à-dire que, par exemple, la limitation du nombre de députés, on en revient toujours. Le problème en France, il n'est pas là. Le problème, il est le fameux millefeuille territorial. C'est-à-dire qu'on a des départements, des régions qui se marchent sur les pieds, qui font la même chose, qui doublent les effectifs de fonctionnaires et de cadres de l'administration. Et ça, c'est pas abordé parce que il y aura jamais consensus sur le sujet et qu'on sait qu'en France, faire passer une réforme constitutionnelle, c'est soit un accord avec le Sénat, soit le référendum avec tous les risques que ça comporte et que je pense pas que Macron le prendra.
Audrey Goutard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce référendum, c'est une option toujours valable? Aujourd'hui, parce qu'on voit en effet Roger Carucci, par exemple, qui est un sénateur bien installé. En effet, Éric Métou le disait, c'est-à-dire que si on doit réviser, donc je rappelle, une révision constitutionnelle, dedans il y aurait la réforme du Conseil de la magistrature, la suppression de la Cour de justice dans la Corse, le rythme parlementaire, réforme, d'autres réformes. Donc ça irait normalement ce qu'on appelle à Versailles, où on réunit l'Assemblée nationale, le Sénat. Si le Sénat, donc où la droite est majoritaire, ne le vote pas, ça ne passe pas.
Bah oui.
Donc ça veut dire qu'on serait dans une option.
Bien sûr, à la Suisse avec un référendum et puis après, la prise de risque effectivement de se retrouver dans une situation où le gouvernement serait, en tout cas Emmanuel Macron s'est totalement désavoué. Alors après qu'est-ce qui se passe? Oui. C'est le saut dans l'inconnu. Voilà, et puis est-ce que les Français qui ne sont pas du tout habitués depuis général à fonctionner par référendum, qu'est-ce qu'ils vont comprendre?
Surtout le dernier a été un peu complexe parce qu'on se souvient c'était sur la révision constitutionnelle.
Absolument.
Voilà, sur donner une constitution à l'Europe. Les Français avaient voté contre, puis ça a été accepté. Et ensuite, donc c'est voilà, un peu
avec la valeur que ça peut avoir effectivement.
Pas accepté non, par la population. Pas.
Non, mais ça a été revoté. Thomas Guénolé, est-ce que justement un référendum, vous, est-ce que vous seriez pour un référendum pour ce genre de sujet? Alors après, il faut connaître la question. Et on sait souvent que les électeurs votent pour ou contre le président à ce moment-là.
Pas nécessairement. Pas nécessairement. Beaucoup en fait, je suis toujours impressionné par les capacités divinatoires des gens qui nous disent « le peuple a voté finalement sur ceci plutôt que sur cela », alors qu'il n'y a pas de base factuelle pour pouvoir affirmer ça, à part l'intime conviction.
Donc, on se souvient parce qu'en fait, parce que le général de Gaulle en 69 a dit « si vous ne votez pas… »
C'est pas un reproche.
Parce que le général de Gaulle avait dit « si en 69 vous ne votez pas, ma référendum, je démissionne ».
Bien sûr, mais est-ce qu'on a un seul autre exemple?
On sait que François Mitterrand...
Depuis,
a été affirmé. Mais depuis De Gaulle, on n'a pas de chef d'État en France, en tout cas, qui ait dit « si c'est le nom qui gagne, je m'en vais ». Il y a le 2005, excusez-moi. Mais donc, on n'a pas de cas où le mandat a été mis dans la balance explicitement, et donc c'est juste l'intime conviction des commentateurs.
Est-ce que ça serait intéressant autre chose comme démarche?
Sur le fond, juste 30% de députés et de sénateurs en moins. En quoi c'est un progrès de la démocratie? Moi, je ne vois pas. Je vous le dis sincèrement, je ne vois pas en quoi c'est un progrès de la démocratie. Deux yeux, 15% de élus à la proportionnelle. Alors là, moi, pourquoi pas, mais j'ai un problème de logique, c'est-à-dire que soit vous considérez que vous voulez une légitimité de représentation des territoires, et dans ce cas-là, c'est les circonscriptions, c'est par circonscriptions, soit vous voulez une légitimité des courants d'idées, et dans ce cas-là, c'est 100% de proportionnelle, soit vous voulez un mix des deux, mais dans ce cas-là, la clé de répartition, c'est comme en Allemagne, c'est 50-50. Dernier point, et c'est un point que je ne comprends pas, et sur les trois mandats maximum, pardon, mais pour moi, c'est une blague. C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer qu'un député ne pourra rester député que 15 ans. Et qu'un maire, alors les maires au-dessus d'une certaine taille de ville...
au-dessus de 9 000.
Voilà. 9 000, ouais. Mais ce qui est plutôt une bonne idée, à mon avis. Et que le maire ne pourra rester que 18 ans. Donc ça, c'est une blague.
Éric Lanois, alors l'argument utilisé pourquoi aujourd'hui il faudrait supprimer un certain nombre de parlementaires, c'est... comme ça, on pourra permettre aux autres parlementaires de mieux travailler parce qu'ils pourraient recevoir une enveloppe plus importante, donc plus de collaborateurs. Et à ce moment-là, elle est vraiment dans les dossiers, au fond des dossiers.
Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, les parlementaires manquent de moyens, contrairement à ce que l'on croit, pour aller au fond des dossiers. Je crains malheureusement que la raison pour laquelle cette mesure est populaire, c'est parce qu'on pense qu'avec ça, on va faire des économies de dingue. Personnellement, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, non pas sur un aspect de victoire ou défaite de la démocratie, mais sur un aspect de est-ce vraiment nécessaire. Il s'est passé quelque chose de très important en juin 2017, c'est qu'on a eu enfin une Assemblée nationale qui était quand même un peu plus représentative du corps électoral français en termes de classe socio-professionnelle. Est-ce que il fallait aller plus loin quand on sait que aujourd'hui, finalement, la moyenne européenne est de 1 pour 40 000 citoyens, alors qu'en France, on est sur 1 pour 70 000.
C'est ça.
Donc, est-ce qu'il fallait vraiment baisser? Alors, il est clair qu'on va nous opposer les États-Unis, 1 pour 600 000.
Mais c'est autre chose.
C'est une autre organisation territoriale et une autre organisation politique. Donc, c'est pas tellement comparable. En revanche, je ne suis pas d'accord sur le cumul des mandats, mais on pourra.
On va en parler dans un instant, si vous le permettez. On va être à l'heure pour une fois, on va le donner, cette horloge à l'heure, je vous promets. Voilà, c'est incroyable, ça arrive maintenant. Et oui, l'info à 20h40, c'est donc Edouard Marié.
Après deux jours de grève, les cheminots reprennent le travail demain. Conséquence du mouvement, il y aura des retards sur certaines lignes. Aujourd'hui, 30% des salariés étaient en grève, selon la direction. Prochaine journée de cette grève perlée, dimanche prochain. Des universités sont toujours bloquées un peu partout en France. Deux le sont complètement à Toulouse et à Montpellier. Les étudiants souhaitent le retrait de la réforme sur l'accès aux études universitaires. Des enseignants ont rejoint le mouvement en boycottant la plateforme Parcoursup. C'est le cas notamment à Bordeaux. Ce matin, la ministre de l'Enseignement supérieur a estimé que ce texte est la cible d'une campagne de désinformation. Ce projet de réforme des institutions est un point de départ, selon François Bayrou. C'est une aumône à la démocratie pour Marine Le Pen. Le Premier ministre a présenté ses mesures pour réviser la Constitution. Édouard Philippe propose entre autres de diminuer d'un tiers le nombre de parlementaires et d'élire 15% des députés à la proportionnelle dès les prochaines législatives en 2022. Le frère de Laetitia Hallyday est toujours en garde à vue à cette heure-ci à Montpellier. Grégory Boudou a été interpellé à Agde. Les policiers ont des questions à lui poser dans le cadre d'une enquête financière qui vise sa discothèque L'Amnésia, qui se trouve dans la station balnéaire de l'Hérault. Rennes réalise la bonne opération en Ligue 1 de football. Ce soir, les Bretons font match nul contre Monaco, un but partout tout à l'heure. Ils remontent ainsi à la 5e place au classement. Et tout à l'heure, soirée Ligue des Champions, suite des quarts de finale aller. Barcelone contre l'AS Roma et une affiche 100% britannique Liverpool contre Manchester City. Coup d'envoi de ces deux rencontres, 20h45.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de la réforme constitutionnelle. Ça y est, le texte, enfin voilà, les idées, la concertation est arrivée aujourd'hui. Édouard Philippe les a développées tout à l'heure. Éric Dehanois, je vous ai coupé sur le mandat dans le temps. Pourquoi vous êtes plus mesuré sur...
Non, au contraire. Non. C'est par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure. Oui. Je ne pense pas que ce soit une mesurette ni une petite mesure. C'est un signal très important donné à la démocratie, comme quoi la carrière politique est un passage, est une mission, et non pas une carrière telle que beaucoup l'ont envisagée depuis très longtemps.
Juste un passage de 18 ans quand même.
Ben oui, mais un passage de 18 ans, c'est toujours mieux qu'un passage à vie, parce que aujourd'hui, vous avez des politiques totalement hors sol, et il y en a beaucoup qui ont été écartés en juin 2017, qui n'avaient fait que ça.
C'est vrai, Éric Delanois, en même temps, c'est vrai qu'on a mis un président à deux mandats, tout le monde pourrait être à deux mandats.
Oui, voilà, moi je suis pour deux mandats.
Alors, après, il y a le poids de l'expérience, c'est vrai que c'est très compliqué de se dire, il faut aussi de la compétence. Je peux vous garantir qu'on ne peut pas à la fois dire ça et dire que la nouvelle majorité qui a été élue en juin 2017 n'avait pas d'expérience des règles de préséance ou des règles de l'Assemblée, etc., etc. La politique, ça s'acquiert, une compétence, et après, il faut capitaliser dessus, mais il ne faut pas vivre dessus toute sa vie.
Vous avez noté quand même que le gouvernement a reculé sur un point important, c'était le contingentement des amendements.
Tout à fait. Voilà.
Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que s'il y avait, dans les parlements, un problème, c'est effectivement cet embouteillage d'amendements où finalement, le parlementaire existe avec des amendements qui n'aboutiront à rien. Et je me souviens du chiffre sous la période Hollande, on était à... c'était un chiffre absolument... Je veux pas me gourer, mais on était à plusieurs centaines d'amendements qui ne servaient à rien. Et là-dessus, effectivement, le gouvernement a reculé.
Juste une chose, Éric Métou, sur cette proportionnelle, est-ce que c'est si important de ça, les 15% de proportionnelle, est-ce que ça va représenter véritablement quelque chose?
C'est mieux que rien, déjà.
Oui, non, bien sûr.
On voit que Bayrou est déjà en train de monter le front, parce qu'il était plutôt pour 25 ou 30 que 15%. C'est un peu epsilon, 15%. Après, je pense que ça va être des longues discussions, puisque
pour savoir où on va y aller. Hein.
Jusqu'en 2019.
C'est ça.
Ils vont pousser les curseurs. Alors, est-ce que effectivement, ça sera 3 mandats, 2 mandats, 20% plutôt que 15%. Marine Le Pen réclame encore plus. C'est peut-être un des sujets sur lequel elle a le moins tort. C'est-à-dire que la représentation du Front National comparée à son poids réel dans l'électorat est ridicule. Mais tout ça est en discussion. Le fait que déjà ça soit acté qu'il y ait de la proportionnelle, c'est quand même plutôt un progrès.
Et Thomas Guénolé.
Oui, moi, il y a deux aspects. Je regrette que ce ne soit pas dans la réforme. Le premier, vous citiez la Suisse, madame, tout à l'heure. Moi, je suis un chaud partisan de la démocratie semi-directe suisse. Et donc, je souhaiterais qu'on adopte énormément de dispositifs qui viennent de... Mais l'Italie le fait aussi. Les gens ne le savent pas. Mais l'Italie a le même type de mécanisme.
Davantage de consultation.
Davantage. En fait, en Italie, en résumé, vous pouvez beaucoup plus facilement qu'en France, ça va de soi, mais presque aussi facilement qu'en Suisse, avoir des pétitions de citoyens qui déclenchent un référendum pour adopter des décisions, des lois, etc. Et puis on peut aussi faire comme en Californie, où le gouverneur de l'État, une pétition peut provoquer un référendum pour le révoquer, donc on peut faire ça avec nos différents élus.
Ouais.
Ce serait des choses intéressantes en termes de démocratie semi-directe. L'indépendance de la justice, très important, on est dans une situation où les magistrats qui poursuivent en quelque sorte et qui enquêtent, je simplifie, pour les puristes qui nous écouteraient, je simplifie, tout ce qui est procureur, etc., etc., ne sont pas des magistrats indépendants, toujours pas. Et du côté des juges qui jugent, eux, ils sont indépendants, mais malheureusement, leur carrière dépend quand même en grande partie du pouvoir politique de facto. Et donc ça, la réforme de l'indépendance de la justice n'est toujours pas sur les rails. Dernier point, je serai très court là-dessus, mais je tiens à le dire aux auditeurs pour qu'ils sachent qu'il y a un danger. Ça s'appelle le gerrymandering. C'est quand, au moment où vous devez redécouper les circonscriptions, ce qui serait le cas avec 30%
de sièges en moins. Bien sûr, d'ailleurs, c'est une nouvelle carte électorale.
Dans ce cas-là, vous faites une nouvelle carte électorale et il y a une tentative très forte, le PS l'a fait, le Pasqua l'a fait, etc., qui est de redécouper ça d'une manière qui favorise un peu votre camp. Et donc j'espère de tout mon cœur, s'il y a des macronistes qui nous écoutent, que vous penserez à mettre en place un dispositif véritablement œcuménique au niveau des députés pour définir le redécoupage, parce que sinon il y aura des trucs sales.
C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, ça n'arrivera pas, c'est de la politique, Éric Dehanois.
Jusqu'à présent, ça n'avait pas lieu, hélas. Ouais.
Vous pensez que ça va être...
C'est dangereux.
Ça peut être juste pour terminer, parce qu'après je vais entendre aussi Audrey Goutard, juste pour terminer, c'est une chose tout de même intéressante de s'y intéresser maintenant à cette constitution, il fallait le faire maintenant.
Oui, il fallait faire maintenant parce que ça se prépare ensuite, notamment la proportionnelle, c'est quelque chose qui se prépare. Je pense qu'il va y avoir du temps à consacrer à mettre en place des simulations. Il n'y a pas de vérité sur le sujet 15, 20, 30%. Après, chacun le voit à l'aune de son intérêt personnel. Je pense en revanche qu'il y a des simulations intéressantes à faire pour essayer de déterminer le fait qu'on doit avoir une majorité qui se dégage et qui émerge pour ne pas tomber dans les errances de la 4ème République.
Voilà, et savoir que donc ça pourrait, exactement. ça rentrerait donc en action donc en 2022.
Hein, voilà. Non, mais en 2022, mais il faut savoir que ça aurait des effets réels. Je crois que les calculs ont été fait sur des élections, enfin à 15 ou 20 ans. Si on fait passer la loi en 2022, ça, de toute façon, ça recule. Enfin, c'est des échéances qui sont très 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 éloignées.
Allez, vous parliez justement, André Goutard, un instant d'amendement. Justement, on va en reparler parce que, vous savez, quand vous travaillez sur une chaîne d'information continue, vous êtes confronté à une répétition de l'histoire, c'est dingue. Hein. Comme si nous étions jamais sortis du quinquennat de François Hollande. Les mobilisations sociales ressemblent à celles contre la loi El Khomri en 2016 et voilà qu'on parle des frondeurs au sein du groupe majoritaire. Dans quelques semaines, l'Institut de sondage va nous annoncer qu'Alain Juppé sera sûrement le prochain président. Et on aura réalisé la boucle, en fait. Hein. En ce moment, à l'Assemblée nationale, on discute de la loi Asile et Immigration, présentée par Gérard Collomb, un travail en commission. Avant un examen dans l'hémicycle, vers le 16 avril, 900 amendements ont été déposés, dont 363 viennent de La République En Marche. Absolument. Et oui, la partie gauche du mouvement présidentiel est gênée aux entournures par de nombreuses dispositions prévues par le texte, et notamment doubler la durée de rétention en centre administratif et de réduire à 15 jours le délai de recours pour les déboutés du droit d'asile. On parle d'adoucissement du texte, mais jusqu'où? Déjà, ça ne va pas assez loin, selon le député du Front National, Louis Alliot.
Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de communication sur le sujet, notamment sur la réduction des délais de rétention, des choses comme ça. Mais en fait, le gouvernement est déjà en train pratiquement de plier. Je regardais hier M. Collomb en commission
des lois,
qui commençait à dire « mais non, ce que je veux, c'est… » Voilà. Ils sont toujours entre deux. Aucun gouvernement n'a jamais pris des mesures adéquates pour mettre fin à l'immigration clandestine. Je pense que ce projet de loi n'est pas la mesure de ce que vit aujourd'hui la France.
Voilà, le député frontiste, donc Louis Alliot. Audrey Goutard, on voit cette loi qui divise hein, encore et toujours à majorité. On avait déjà vu lors du premier examen. Ça n'a pas été très simple.
Oui, et puis là, effectivement, on est à l'heure des ajustements. Et c'est vrai que les propositions du gouvernement, notamment en matière de rétention, sur le terrain, au regard des réalités de terrain, ne collaient pas. Et effectivement aussi, le gouvernement se rend compte, pour en avoir discuté avec différentes personnes qui se consacrent directement à ces réflexions. Le problème est le problème de que faire des déboutés du droit d'asile, que faire de ceux dont on ne peut plus, qu'on ne veut plus garder. C'est certainement pas en les maintenant. Voilà. Donc je trouve que ce débat est sain en fait, parce qu'on voit effectivement que les choses s'ajustent sur un problème qui est extrêmement complexe et que les spécialistes commencent à être enfin un petit peu entendus, ce qui permet effectivement de faire dire au ministre de l'Intérieur autre chose que ce qu'il disait au départ. Voilà.
Donc, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h50, Édouard Marguier.
Et d'abord, cette statistique inquiétante rapportée par le Conseil de l'Ordre des médecins. 1000 médecins ont été agressés l'an dernier, c'est du jamais vu. Les femmes sont le plus souvent concernées. Les départements du Nord et des Bouches-du-Rhône sont les plus touchés. Cette révision constitutionnelle était l'une des grandes promesses d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Elle a été présentée aujourd'hui par le Premier ministre Édouard Philippe. Il propose de diminuer d'un tiers le nombre de parlementaires et d'élire 15% des députés à la proportionnelle dès les prochaines législatives en 2022. Avec la grève à la SNCF, le Premier ministre, qui préfère rester en France, il annonce reporter son déplacement au Mali qui devait avoir lieu ce week-end. Le deuxième jour de la grève perlée se termine. Un peu moins de 30% des cheminots étaient en grève aujourd'hui. Reprise du travail demain pour eux. Le trafic qui reprendra progressivement, prévient la direction. Si vous devez prendre l'avion ces prochains jours, notez ces 4 nouvelles journées de grève chez Air France. Les 17, 18, 23 et 24 avril. Ces dates s'ajoutent aux 7, 10 et 11 avril. Les syndicats dénoncent un simulacre de négociation et réclament toujours une augmentation des salaires. Comme la menace terroriste persiste, les contrôles à nos frontières vont se prolonger jusqu'à la fin octobre, 6 mois de plus, indiqué par la France à la Commission européenne. Ces contrôles avaient été remis en place après les attentats du 13 novembre. Ils sont normalement inexistants à l'intérieur de l'espace Schengen.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, on parle de la loi Asile et Migration. En ce moment, c'est l'examen de cette loi en commission et il y a énormément d'amendements venant de La République En Marche, 363. Éric Métou, il y a juste une... Je vais vous faire réagir sur une phrase dite par un député apparenté La République En Marche, qui s'appelle Manuel Valls, qui explique, et donc parce que qui a beaucoup parlé à La République En Marche en commission, et qui explique, une fois que l'on accède aux responsabilités, la réalité du flux migratoire s'impose.
Mais oui, bah oui, la réalité du flux migratoire s'impose, c'est-à-dire qu'on aura beau mettre des barrières, élever des barrières comme veut le faire Monsieur Collomb ou comme voulait le faire Monsieur Valls, on va enlever encore plus. De toute façon, ces gens-là viendront. Et c'est pas 90 jours au lieu de 45 jours en centre de rétention ou des délais plus courts qui vont changer quelque chose. Et le problème, c'est qu'on attaque dans ce pays depuis des années. Et de plus en plus, parce que aussi la France change de position, l'opinion publique a changé d'avis sur le sujet. Mais on prend le problème par le mauvais bout, c'est-à-dire que franchement, la partie intégration du texte qui est voté là, elle est là pour la galerie. Elle n'existe pas. C'est essentiellement, c'est une loi très très dure. C'est sans doute la loi la plus dure qu'on ait eue sur l'immigration depuis des années. Et on va faire quoi? Et on travaille pas au niveau de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a, on laisse toujours les Allemands prendre l'essentiel des migrants et des réfugiés. Le boulot est pas fait, quoi. Et le principe de la réalité, il serait d'admettre qu'effectivement, on a un déséquilibre mondial entre des pays très pauvres qui vont envoyer leurs migrants vers des pays très riches, et plutôt de faire en sorte que ces gens-là soient bien reçus correctement, mais aussi rationnellement reçus. C'est irrationnel.
Et vous l'avez dit aussi.
Ces textes de loi sont irrationnels.
Vous l'avez dit aussi au niveau de
l'Europe. Je ne trouve pas que le débat soit sain.
Voilà, vous l'avez dit aussi.
Le débat est profondément mal sain.
Non, mais Audrey Boutin, et après. Allez-y.
Non, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que dit Eric, dans le sens où, pour avoir fait beaucoup de reportages, justement, dans toutes ces zones et avoir croisé beaucoup de demandeurs d'asile, je parle notamment des demandeurs d'asile. Moi, je me souviens quand même, et ça existe encore, c'est les files d'attente de ces gens, le fait de dormir Porte de la Chapelle sous des tentes, le fait, effectivement, d'attendre près d'un an qu'on étudie son dossier, qu'aujourd'hui, le gouvernement, enfin, prenne la mesure du problème et décide, pour des bonnes ou mauvaises raisons, ça, je m'en fiche, ça m'intéresse pas, je suis pas une politique, décide effectivement de réduire au maximum le temps d'étude des dossiers, le temps de règlement des dossiers, c'est important.
Ça, c'est un vœu pieux.
Non, c'est pas un vœu pieux, parce que je peux vous dire que par exemple à l'OFPRA, le délai est passé de plus d'un an à aujourd'hui 3 mois.
Ce qui va être appliqué, c'est les 90 jours au centre de rétention.
Non, mais justement,
la réduction du temps d'étude des dossiers,
je suis pas là pour soutenir le gouvernement, mais Collomb dit qu'effectivement, il revient sur ça. Et c'est pour ça que le débat n'est pas inintéressant, et de voir que des spécialistes ont pu ouvrir la bouche, c'est pas mal.
Thomas Guénolé.
D'abord, on entend des chiffres, 100 000 demandeurs d'asile en 2017, ce qui est quand même un seuil particulièrement élevé. Sauf que je voudrais rappeler aux gens qui nous écoutent et qui commenceraient à prendre peur que ça correspond à 0,15% de la population française. Donc il faut regarder les ordres de grandeur. Alors, il y a une crise humanitaire. Il y a une crise humanitaire dans des endroits où, effectivement, il y a le Calaisie, il y a des situations qui sont de détresse, qui sont graves. Vous mentionniez tout à l'heure, madame, la Porte de la Chapelle, etc. Il y a d'autres endroits comme ça.
Bien sûr.
Ça existe, oui. Mais parler d'effondrement de régions entières qui seraient submergées par des flux de demandeurs d'asile, l'a dit monsieur Collomb, non, c'est pas sérieux. Il faut garder son sang-froid par rapport aux chiffres réels. Ensuite, très concrètement et brièvement, qu'est-ce qui ne va pas dans ce projet de loi, entre autres choses? Un, les demandeurs refusés n'auront plus que 15 jours pour pouvoir déposer un recours. C'est objectivement trop court. Les gens qui nous écoutent, encore une fois, imaginez-vous, vous avez la possibilité de faire une action en justice, vous avez 15 jours. C'est beaucoup trop court. Deux, l'emprisonnement sans jugement, son joli nom, c'est rétention administrative. L'emprisonnement sans jugement pourrait être porté jusqu'à 4 mois et demi pour des gens qui, je le rappelle, n'ont pas commis de délit. Et trois, des demandeurs seront expulsés avant que le juge des libertés se soit prononcé. Donc on revient aux expulsions sans jugement de l'époque d'Éric Besson. Le président est de gauche et de droite, là, je ne le vois pas.
Justement, Éric Delannoy, quand vous voyez, c'est autant d'amendements par le groupe La République En Marche. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça veut dire que là, on est vraiment dans un clivage gauche-droite de nouveau? On se retrouve?
Pas du tout. Non, ça ne m'étonne pas du tout, parce que quand on parle de division, moi, je parle de pluralité.
Oui.
Quand on parle de gêner aux entournures, moi, je parle d'améliorer le texte. Et quand on parle d'opposition, moi, je dis qu'il y a une majorité qui a été élue en jeu. en 2017 qui est riche de sa diversité.
Donc, vous parlez macronien couramment, c'est spectaculaire.
Non, mais c'est, je vous donne des faits, la preuve. Vrai, 300, on parlait de caporalisation et on parlait de monarque. Je suis désolé, on s'aperçoit qu'il y a juste des personnes qui ont été élues pour créer de la valeur et pour faire voter des textes. Donc, ils vont créer de la valeur et donc ils déposent des amendements et on leur demande pas de faire une, de laisser une seule tête. Ça, c'est un point très important. Maintenant, je sais pas pourquoi, je suis assez d'accord avec ce que disait madame, je vois pas pourquoi on s'échine à évoquer le fait que cette loi est une loi extrêmement dure. Moi, alors, je suis d'accord pour dire qu'il y a des situations déplorables. Ce qui est déplorable, c'est qu'on laisse 10 000 personnes dans la détresse, agglutinées à Calais.
Éric Delannoy.
Et donc, on va les expulser
sans
jeu.
Non, ce qu'on va faire. Non, on va faire en sorte d'avoir un schéma de répartition nationale parce que.
Parce que ça doit terminer un moment et je vous promets, je vais vous réinviter en tout cas avant le 16 avril pour pouvoir en parler. Merci beaucoup d'ailleurs d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci Thomas Guénolé. Merci Audrey Goutard. Et la Une de l'Express, c'est Eric Métou cette semaine.
Gros dossier sur l'état de l'hôpital public qui va pas bien, dont une enquête assez effrayante à l'hôpital de la Timone à Marseille.
À retrouver dans l'Express. Il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Au programme ce soir de Tout est politique.
Nous allons parler de révision constitutionnelle et toujours les mouvements sociaux avec Sophie Oconi de l'UDI, c'est la nouvelle porte-parole, Rachid Temal du Parti Socialiste, Saïd Hamada de La République En Marche et Gilles Bornstein de France Info.
Bien sûr, Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.